Bonjour! Bonjour tout le monde, comment ça va? Ah, je commençais tout juste à motiver pour bosser. Ah, des os! Désolé. Bonjour tout le monde. Attendez, j'en tiens mes pompes. C'est à cause du petit chat que t'es en retard. Je suis pas en retard. C'est vous qui êtes en avance, c'est pas pareil. Hein. Comment va l'opoticha? L'opoticha va bien. Toujours sous l'évier. Non, non, mais elle va bien. Hein. Si je rate mes partiels, c'est de ta faute. My bad. Sorry. Je sors du coiffeur, ça fait du bien. Hier, j'ai animé une table ronde. J'ai animé une table ronde à l'invitation d'un journal qui s'appelle Le Grand Continent. Le Grand Continent qui m'a proposé de venir modérer des échanges à l'École normale supérieure. Et c'était des échanges sur la doctrine et la stratégie de la gauche, des gauches en Europe, à l'occasion de l'élection européenne. Et autour de la table, comme intervenant, il y avait François Ruffin, que vous connaissez. Il y avait Paul Magnette, que vous connaissez peut-être pas, qui est le président du Parti socialiste belge. Et il y avait la porte-parole du Parti socialiste français, qui s'appelle Chloé Ridel, que vous connaissez peut-être. Et c'était cool, il y avait grave du monde et tout. J'ai voulu regarder, mais le son était tellement horrible que j'ai abandonné. Ouais, le son, c'était compliqué. Le son, c'était compliqué. Mais voilà. On dit pas comme ça, on dit Paul Magnette. Alors, je savais pas s'il fallait dire Magnette ou Magnette. Bon, très sympa en demeurant, Paul Magnette. Magnette, on va dire Magnette. Donc voilà, donc c'était intéressant. C'était intéressant. Son de gauche comme d'hab. Ah ouais. Donc voilà, et là ce soir, j'ai été invité à une réunion publique organisée par le député Émeric Caron. Vous connaissez peut-être le député Émeric Caron, qui était à la télé avant, qui est antispéciste, qui a écrit des bouquins sur l'antispécisme et qui est devenu élu député de la France Insoumise dans le 18e arrondissement à Paris. Et il m'a invité à venir participer à une réunion publique, à un échange sur le sujet de la politique, ça sert à quoi? Voilà. Politique, démocratie, les jeunes, tout ça. Et donc j'ai accepté avec plaisir. Et donc je me retrouve sur une affiche de meeting de la France Insoumise, de la NUPES. Je pas grave, m'en fous. Moi j'ai dit oui, on me propose de venir. Je dis bah oui, avec plaisir, c'est gentil de m'inviter, j'arrive. Je pense y aller. Est-ce qu'il y a des gens du chat qui y vont aussi? Ah ouais, est-ce qu'il y en a qui veulent venir? Venez, hein, c'est dans le 18e arrondissement. C'est où déjà? C'est sur mon Twitter. Hein. C'est où? C'est à la Maison Bleue, 24 avenue de la Porte de Montmartre, à 19h. Si vous voulez viendre. Je sais pas si ce sera streamé, s'il y a une captation, j'en sais rien. Je sais pas, je sais pas, je pense pas, j'en sais rien. Et donc voilà, on sera avec Raquel Garrido, Émeric Caron et moi. Je sais pas, il y aura peut-être d'autres gens, j'en sais rien, je sais pas. Maxime Le Forestier sera là, j'espère, à la Maison Bleue quand même. Donc voilà, donc ça c'est mon programme ce soir. Et avant ça, donc là je vous propose un petit stream de revue d'actu, parce qu'il y a des infos intéressantes qui sont sorties ces derniers jours. Il se passe plein de trucs dans l'actualité. J'ai pas streamé la semaine dernière. Il faut qu'on se remette dans le bain tous ensemble. Demain, Backseat, dans le Before de Backseat, j'aurai le plaisir de recevoir Philippe Collin. Philippe Collin qui est journaliste et qui fait notamment une émission sur France Inter, que vous pouvez retrouver en podcast, dans laquelle il fait des séries documentaires sur des personnalités. Il a fait une série documentaire sur Philippe Pétain, il a fait une série documentaire sur Léon Blum, il a fait une série sur Jean-Marie Le Pen, et là, sa dernière qui est en train de sortir, c'est sur Simone de Beauvoir. Philippe Collin est un excellent journaliste que j'aime beaucoup. Avec Usul, on est président de la Philippe Collin Appreciation Society. Et je suis très très heureux qu'il ait accepté de venir parler de son travail dans le Before de Backseat. Voilà. C'est pas un Before sponsor, hein, c'est On n'a pas de sponsor, on n'a pas de partenaire, donc on s'est dit, tiens, et si on invitait Philippe Collin? Poum, poum. C'est bien, je me suis enchaîné les trois plus de 30 heures en une semaine. Hâte de voir celle sur Simone de Beauvoir. Ah, moi, je suis comme toi. Moi, j'ai binge-watché. Alors, c'est pas du binge-watch, c'est du binge-écoutage. Ouais, les séries documentaires de Philippe Collin sont extraordinaires. Hein. Franchement, si vous voulez une plongée historique dans l'histoire, la carrière de Philippe Pétain, c'est extraordinaire. Le dernier que j'ai écouté il y a 2 semaines, c'était celui sur Jean-Marie Le Pen. Absolument extraordinaire. Très, très bonne série documentaire pour n'importe qui s'intéresse un peu à l'actualité politique. Avoir un rappel sur l'histoire du Front National et même l'histoire de Jean-Marie Le Pen, qui est un personnage majeur de l'histoire de l'extrême droite en France depuis la Seconde Guerre mondiale en réalité. Extrêmement intéressant de revoir toutes les époques du Front National, l'évolution, la stratégie et la tactique de Jean-Marie Le Pen, c'est super intéressant. On en est à combien d'argent pour Baxit? Je fais un point demain dans Baxit. Celle sur Poutine aussi était hyper intéressante. Oui, il a fait une série sur Poutine aussi que j'ai pas écoutée, qu'il faut que j'écoute. C'est quoi le nom de l'émission dont tu parles? Je sais pas si ça a un nom, hein. Chacune de ces séries documentaires a un nom, donc il y a Philippe Collin. Simone de Beauvoir, itinéraire d'une jeune fille rangée. Ça, c'est le titre du podcast sur Simone de Beauvoir. Jean-Marie Le Pen, l'obsession nationale. Léon Blum, une vie héroïque. Cléopâtre, le génie politique. Poutine, le tsar soviétique. Le fantôme de Philippe Pétain, c'est le titre du truc. Molière, le chien et le loup. Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais. Donc voilà, ça, c'est toutes les séries documentaires de Philippe Collin, les podcasts. Je vous invite à les bouffer. C'est extraordinaire. Et du coup, j'ai très envie d'écouter celui sur bah, tous les autres, en fait, hein, ceux que j'ai pas encore écoutés, sur Poutine, sur Cléopâtre, sur Molière et sur Napoléon. Ça, je vais me les faire, les amis. C'est à écouter où? C'est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast qui existent, sur le site de France Inter, de Radio France, tout ça, tout ça. Cette semaine, j'ai écouté le podcast d'Histoni sur la politique du 19e siècle en France. C'est hyper intéressant, mais un peu brut de décoffrage. Oui, Histoni, excellent vidéaste, vulgarisateur d'histoire, qui a fait d'excellentes séries, lui aussi, une sur la Révolution française que j'avais adorée. Et là, effectivement, il est en train de faire une série sur le 19e siècle. Alors, il rentre dans le détail, hein. C'est fascinant. Plonger dans l'histoire du 19e siècle, l'histoire des restaurations républiques, la naissance du parlementarisme, Charles X. Enfin, c'est... Très très intéressant, mais là c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, un peu brut. Mais tant mieux, parce que Histoni fait un énorme travail de lecture pour mettre à jour ses connaissances et tout. Fascinant. Très très chouette. Celui sur Napoléon, ouais. Donc voilà. Merci pour la découverte. Ah, mais de rien. De rien, de rien, de rien. Puis après, bon, vous connaissez, hein, il y a Nota Bene qui fait d'excellentes vidéos d'histoire que j'aime énormément sur plein de sujets divers et variés. Donc voilà. Est-ce que vous allez bien, vous, redonner le nom du type? C'est Philippe Collin. Collin comme le Collin d'Alaska. Non, je déconne. Il y a 2 L à Collin. COLIN. Philippe Collin. Hero.com, évidemment, Hero.com, j'adore Hero.com. Alors ça aussi, c'est hard. Hein. C'est hard à suivre. Hein. Les histoires de Gengis Khan, là, je t'avoue que... Mais la série d'Hero.com sur les croisades est extraordinaire. Fascinant. Bof, comme une fin de semestre. Ah ouais, c'est la fin du semestre, là? Ah, on est fin mai. Comment ça se passe? Sur le champ pour l'histoire militaire. Ah oui, j'adore Sur le champ. Ah non, mais je les trouve vraiment très très talentueux, hein, tous ces vidéastes. Sur le champ, j'aime beaucoup. Easy, difficile, oui, ça va bien. Les chaussettes Los Republicanos, c'est le mog isolant, ont été annulées. Oh non, pourquoi? Vous avez des mémoires à rendre? Ah merde, partiel dans 2 semaines, c'est chaud, courage. En pleine rédaction du rapport de stage, dernier partiel vendredi, j'en peux plus. Bientôt les rattrapages, donc pas de vacances ici. Averroès, c'est chouette. Averroès, c'est extraordinaire, ouais. C'est la sauce capitaine, merde. Très bien, j'ai récupéré de mon week-end de l'ascension où je travaillais. Ok, c'est cool. Cool. Rédaction de mémoire à rendre dans une semaine. Je me souviens pas de mes partiels d'histoire, on avait passé dans un bar. Que j'avais passé dans un bar. D'accord. Fin du master en vue, je regarde Naruto. Fin de thèse, c'est rude, courage. J'attaque mon premier boulot après thèse lundi, le stress monte un peu. Oh, c'est cool, bravo. Rédaction du mémoire ici aussi. Bon, allez, courage à vous, hein. Courage les étudiants, courage ceux qui bossent aussi. J'espère que ça va. Courage ceux qui doivent finir Zelda aussi, c'est important ça. N'oubliez pas de finir Zelda, c'est important. Courage aux chômeurs aussi, ouais, courage aux chômeurs. Quel que soit votre type de chômage. Fin de préparation de concours, c'est difficile ici aussi. Eh bien, les amis. Alors, je voulais vous lire un article. Alors, il y a deux articles intéressants que je voudrais vous lire. Parce que il faut qu'on se remette dans le bain de la loi d'abrogation de la réforme des retraites. Donc, je vais vous refaire l'explication pour celles et ceux qui sont un peu largués et c'est normal. La réforme des retraites a été portée par le gouvernement et elle a été adoptée par le Parlement il n'y a pas très longtemps. Elle a même été jugée conforme par le Conseil constitutionnel en grande majorité et elle a été promulguée par le président de la République. Ça, vous en étiez resté à cet épisode-là. On a suivi un mouvement social très important au cours des 3 premiers mois de l'année 2022. 2023, pardon, contre la réforme des retraites. Il y a eu tout un tas de trucs qui s'est passé au Parlement, à l'Assemblée nationale, notamment l'utilisation de l'article 49.3. Ok? Indépendamment de ce qui s'est passé avec l'article 49.3, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que, en l'état actuel des choses, le Parlement a bel et bien adopté la loi, certes sans la voter à l'Assemblée nationale, mais elle a quand même été adoptée par le Parlement via l'utilisation de l'article 49.3. La loi est entrée en vigueur. Elle n'est pas contraire à la Constitution. Le Conseil constitutionnel en a jugé ainsi. Elle est entrée en vigueur puisque le président de la République l'a promulguée. Ça pourrait être la fin de l'histoire. Sauf que ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque les députés d'opposition à l'Assemblée nationale ont l'intention d'organiser une seconde manche, un match retour, si vous voulez, sur cette loi, sur cette réforme des retraites. Et je vous rappelle que les députés d'opposition à l'Assemblée nationale ont la possibilité de déposer des propositions de loi. Proposition de loi que les groupes d'opposition peuvent faire examiner par l'Assemblée nationale à l'occasion de ce qu'on appelle les niches parlementaires. Une niche parlementaire, ce n'est rien d'autre qu'un jour dans l'agenda du Parlement, de l'Assemblée ou du Sénat, qui est réservé à un groupe pour que ce jour-là, ce groupe ait la main sur l'agenda et décide des propositions de loi, en général les siennes évidemment, dont on va discuter. Okay. Il y a déjà eu des propositions de loi qui ont été adoptées dans le cadre de niches parlementaires. On avait déjà eu, par exemple, la constitutionnalisation de l'IVG qui a été votée en première lecture. C'était une niche de la France insoumise. Il y en a d'autres, ici, il se passe plein de trucs et tout dans les niches parlementaires. Donc c'est important, les niches parlementaires, puisque c'est l'occasion pour les députés d'opposition, les députés minoritaires, de eux aussi faire des propositions de loi et proposer à leurs collègues d'adopter leurs propres lois. Et puis c'est l'occasion de débats politiques, etc. Ok? Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça puisque parmi les groupes d'opposition à l'Assemblée nationale, il y en a un qui s'appelle LIOT, LIOT, LIOT. C'est un groupe qui veut dire Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. C'est un groupe un peu particulier, le groupe LIOT. C'est un groupe de députés à l'Assemblée nationale qui ne représente pas particulièrement une étiquette politique très claire, mais c'est pas très grave. C'est un groupe qui rassemble tout un tas de députés un petit peu orphelins à droite à gauche. N'importe quel député peut rejoindre un groupe d'affinités politiques, c'est pour ça que vous avez des groupes dont vous connaissez les noms puisqu'ils vous renvoient à des partis politiques que vous connaissez, le groupe de la France Insoumise, le groupe socialiste, le groupe écologiste, le groupe du Modem, le groupe de Renaissance, le groupe du Rassemblement National, le groupe des Républicains, tout ça, ça renvoie à un parti politique auquel les citoyens peuvent adhérer, mais un groupe, c'est bien une association de députés. Parmi les groupes, il y a aussi des groupes qui brassent un peu plus large que des partis politiques pour aller agréger des personnes qui sont pas très éloignées mais qui sont d'accord pour siéger avec eux. Par exemple, le groupe GDR, Gauche démocrate et républicaine, c'est le groupe communiste à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a pas que des communistes dedans. Il y a quelques députés aussi d'outre-mer qui sont pas très éloignés du parti communiste mais qui sont pas non plus adhérents du parti, etc. D'accord? LIOT, c'est un groupe particulier puisque c'est un groupe qui en fait ne fait rien d'autre que d'agréger tout un tas de députés. Certains viennent de la gauche, certains viennent du centre, certains viennent de la droite, et puis ils sont d'accord pour faire un groupe ensemble. C'est pas forcément un groupe qui a une cohérence politique, avec une ligne politique affirmée, mais c'est pas très important. Les députés sont d'accord pour former un groupe ensemble, puisqu'ils vont bénéficier grâce à ce groupe d'un certain nombre de moyens. Quand vous êtes à l'Assemblée nationale, avoir un groupe, ça vous permet d'avoir des moyens politiques. Ça vous permet d'avoir des collaborateurs de groupe. Donc ça, c'est des moyens financiers pour embaucher des gens pour bosser pour l'ensemble des députés du groupe. C'est quand même assez pratique. Ça vous permet d'avoir des salles de réunion. C'est aussi pratique. Mais ça vous permet surtout d'avoir des moyens politiques. Les moyens politiques, par exemple, c'est de pouvoir siéger à la conférence des présidents à l'Assemblée nationale. C'est d'avoir du temps de parole dans les débats. Et c'est aussi d'avoir des niches parlementaires, c'est-à-dire des temps réservés aux députés du groupe dans l'agenda pour discuter leurs propositions de loi. L'IOT, en l'occurrence, c'est un groupe dans lequel vous retrouvez des personnes qui sont issues du Parti Socialiste, mais qui sont en rupture de banc avec le Parti Socialiste. Donc c'est là que vous allez retrouver des David Habib, par exemple. Il y a aussi des gens qui viennent de l'UDI, l'UDI qui n'a plus assez de députés pour pouvoir faire son propre groupe et qui fait donc partie de l'IOT. Vous avez des gens qui viennent de la Macronie et qui se sont barrés. Vous avez des centristes qui viennent de la droite. Vous avez Charles de Courson, par exemple, qui vient plutôt de l'UDI, lui. Meyer Habib, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des députés corses qui sont des régionalistes, donc des autonomistes corses, qui ne se retrouvent dans aucun parti français mais qui siègent au sein de l'IOT. Vous avez aussi Paul Molac, qui est un régionaliste breton, vous avez quelques écolos en rupture de banc, vous avez tout un tas de gens comme ça. C'est pour ça qu'il s'appelle Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire. Liberté, c'est pour les libéraux de l'UDI. Indépendant, c'est pour l'UDI aussi. Outre-mer, bah, c'est pour tout un tas de députés issus des départements et des régions d'outre-mer qui sont élus et qui siègent au sein de l'IOT. Et territoire, c'est pour les députés régionalistes, les députés corses, les députés bretons, etc. Okay. Ils sont combien dans ce groupe? C'est un petit groupe, l'IOT, c'est un petit groupe, je crois qu'ils sont une vingtaine à tout casser, voire même moins. Indépendant, c'est pas pour les députés non inscrits qui veulent quand même un groupe. Si, si, non, mais indépendant, en fait, indépendant, ça veut dire un député indépendant. Alors en France, c'est vrai qu'on connaît pas très très bien la notion de parlementaire indépendant. C'est plus présent aux États-Unis, au Royaume-Uni, etc. Mais un indépendant, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la majorité, qui dépend pas du gouvernement, qui n'est pas non plus lié à un grand parti. Donc, ce sont des indés, députés indépendants. Souvent, ce sont des députés qui sont un peu seuls, entre guillemets, dans leur truc, qui ont leur propre ligne politique et qui ne se reconnaissent dans aucun parti et qui n'ont d'attache avec personne, qui ne dépendent de personne ou sont des députés indépendants. Donc beaucoup de députés peuvent se réclamer de l'indépendance en disant « mais moi je suis indépendant, je vous emmerde, je suis qui je suis ». Charles Courson par exemple, il est totalement indépendant ce mec-là. Personne n'a de prise sur lui, personne ne peut lui tordre le bras, personne ne peut lui promettre un hochet, etc. Totalement indépendant. C'est un exemple, voilà. Donc beaucoup de députés l'IOT, effectivement se reconnaissent de l'indépendance. Pourquoi je vous parle de l'IOT? Parce que la niche parlementaire de l'IOT aura lieu le 8 juin prochain. Le 8 juin prochain, c'est une date prévue dans l'agenda de l'Assemblée nationale depuis des mois. On savait que ce serait le 8 juin prochain que l'IOT allait avoir la possibilité de déposer ses propres propositions de loi pour les faire examiner. Or, il se trouve que depuis le début de l'année, la réforme des retraites est passée par là et l'IOT s'est franchement radicalisé contre le gouvernement, notamment contre la méthode du gouvernement. Vous vous souvenez que l'IOT avait été à l'initiative d'une motion de censure transpartisane à l'Assemblée nationale qui avait récolté les votes de tous les opposants à la réforme des retraites, du RN à la NUPES en passant par l'IOT et quelques députés non inscrits. Et c'était cette motion de censure déposée par l'IOT qui avait échoué à faire tomber le gouvernement d'Elisabeth Borne à seulement 9 voix près. Donc c'est quand même pas rien. Ça veut pas dire que l'IOT représente la majorité du Parlement. Faut bien comprendre que l'IOT est un petit groupe de députés indépendants, autonomes et plutôt opposés au gouvernement. Je dis plutôt parce qu'il y en a certains qui sont adhérents à l'IOT mais qui sont proches du gouvernement et qui s'en foutent un peu. Hein. Ils ont le droit. C'est juste que l'IOT, de par sa position dans ce Parlement très particulier, dans cette Assemblée nationale très particulière qu'on a depuis 2022, a une position qui lui permet, parfois, dans des moments comme ça, bah, de créer une synthèse entre tous les opposants au gouvernement, qui s'opposent au gouvernement pour des raisons différentes, mais qui s'y opposent quand même. Et bah là, c'est exactement ce qui va se passer le 8 juin. C'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que le 8 juin prochain, l'IOT va déposer une proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites. C'est aussi simple que ça. Une loi d'abrogation, c'est très simple. De la même manière qu'une motion de censure, c'est facile à comprendre. Motion de censure, c'est un texte avec écrit « Nous censurons le gouvernement ». Loi d'abrogation, c'est une loi où il y a écrit « Nous abrogeons la loi machin ». C'est aussi simple que ça. C'est une loi qui propose d'abroger la réforme des retraites qui a été adoptée par le Parlement il y a quelques semaines et qui propose de revenir à l'état antérieur du système de cotisation et de droit à la retraite, donc 62 ans comme âge légal de départ à la retraite. Ok ? Pourquoi est-ce qu'ils font ça, les députés d'opposition? Et notamment, pourquoi est-ce qu'ils font ça, les députés Liot? Parce qu'au sein du groupe Liot, il y a quand même un paquet de gens qui sont centristes et qui ne sont pas fondamentalement opposés à l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Ils font ça, notamment, c'est Charles de Courson qui l'explique très bien en disant qu'il est très mécontent de la méthode qui a été celle du gouvernement pour faire adopter sa réforme des retraites. Un passage en force dénoncé par Charles de Courson qui juge le gouvernement trop autoritaire, trop vertical, qui enjambe le Parlement et qui utilise le 49-3, qui utilise tout un tas d'articles de la Constitution pour faire passer en force sa loi. Et donc, ce que veut faire Liot, c'est proposer aux députés à l'Assemblée nationale de voter sur la réforme des retraites. C'est une manière inverse de dire, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de voter sur la réforme des retraites, eh ben on va voter sur une abrogation de la réforme des retraites qui en fait revient au même. Si vous votez pour l'abrogation, ça veut dire que vous êtes contre la réforme des retraites. Si vous votez contre l'abrogation, ça veut dire que vous êtes pour la réforme des retraites. C'est ça, le vote qui va être proposé le 8 juin prochain. Donc, là, normalement, vous avez en tête la mécanique, de quoi on va parler. La réforme des retraites entre en vigueur. Une loi d'abrogation propose d'annuler son entrée en vigueur. OK ? Sauf que le gouvernement, Elisabeth Borne, a très très peur de cette loi d'abrogation. Pourquoi est-ce qu'ils ont peur de cette loi d'abrogation ? Il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que le gouvernement a sauvé sa tête à seulement 9 voix près sur une motion de censure. Ça montre que la majorité à l'Assemblée nationale est très fragile. On le savait déjà. On le savait déjà. Le gouvernement n'a pas de majorité. Elisabeth Borne l'a reconnu elle-même. Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même. Les Français, lorsqu'ils ont voté en juin 2022, ont choisi d'envoyer à l'Assemblée nationale des députés sans majorité pour soutenir l'action du gouvernement. Je rappelle que ce qu'on appelle une majorité, quand on le dit vite, c'est une majorité absolue, c'est-à-dire plus de la moitié des députés. Il y a aussi une autre majorité qu'on appelle la majorité relative. C'est le groupe qui a le plus grand nombre de députés sans avoir la majorité absolue, mais qui a quand même la majorité, le plus grand nombre de députés. Aujourd'hui, le groupe majoritaire, c'est le groupe Renaissance, qui, avec ses alliés Modem et Horizon, sont la majorité relative à l'Assemblée, mais n'ont pas de majorité absolue. Donc, ils ne peuvent pas, à eux seuls, faire voter des lois. Donc, ils ont besoin du soutien d'autres députés qui votent avec eux, notamment les députés Les Républicains. Et c'est pour ça qu'il y a des négociations avec Les Républicains. C'est pour ça qu'il y a eu des négociations avec Les Républicains au moment de la réforme des retraites. Et malgré les efforts d'Elisabeth Borne et l'acceptation par Olivier Marleix, le président du groupe, et par Éric Ciotti, le président du parti Les Républicains, les députés Les Républicains ont été quand même un tiers à voter la motion de censure. Preuve que les Républicains sont eux aussi divisés sur cette réforme des retraites. Donc Elisabeth Borne, elle a peur de cette loi d'abrogation, de cette proposition de loi d'abrogation, parce qu'il y a un risque non négligeable que les députés d'opposition, réussissent à créer une majorité de circonstances pour retoquer la réforme des retraites. Il faut bien comprendre un truc, il y a deux subtilités qu'il faut qu'on comprenne et qui sont importantes. La première, c'est les modalités de vote sur les propositions de loi versus les motions de censure, je vais vous expliquer. Et la deuxième, c'est l'importance politique d'un vote, même si la loi ne va pas jusqu'au bout. Première chose, comment est-ce qu'on adopte une loi en France? Les lois ordinaires, là on parle bien d'une loi ordinaire, je ne rentre pas dans le détail, c'est certes une proposition de loi, mais c'est une loi ordinaire, une loi d'abrogation. Il faut avoir une majorité de députés qui votent la loi. On compte le nombre de voix et on cherche à avoir une majorité au moment du vote. Donc ça dépend du nombre de députés qui sont assis dans l'hémicycle à ce moment-là, ça dépend de combien de députés prennent part au vote, et en fonction les députés ont le droit de s'abstenir. Les députés ont le droit de ne pas participer à un vote sur une loi, ils ont parfaitement le droit de le faire. Donc en fonction du nombre de députés qui ont voté, on regarde combien il y a de votes pour, on regarde combien il y a de votes contre. S'il y a plus de votes pour que de votes contre, alors c'est une majorité, alors la loi est adoptée. Pourquoi est-ce que je vous précise ça? Parce que jusque-là, je viens juste vous expliquer le mode de fonctionnement de n'importe quelle élection assez basique, hein, c'est assez classique. C'est parce que c'est différent des motions de censure. Une motion de censure, pour la faire adopter, vous devez non seulement avoir une majorité de votes en faveur de la motion de censure, mais en plus de ça, on ne calcule pas sur le nombre de votants, on calcule sur le nombre de députés, même ceux qui ne sont pas là. Pour avoir une motion de censure adoptée à l'Assemblée nationale, il faut qu'une motion de censure obtienne une majorité des députés qui votent pour la motion de censure. Ça veut dire qu'un député qui s'abstient fait de fait obstacle à l'adoption de la motion de censure. d'ailleurs une motion de censure, il n'y a même pas de vote contre. On ne peut pas voter contre une motion de censure. On ne peut que voter pour une motion de censure. C'est beaucoup plus simple, une motion de censure. On demande qui est pour la motion de censure, les mains se lèvent, on compte les mains. S'il y a une majorité absolue de députés qui ont levé la main, alors voilà. Mais on ne demande même pas aux autres de voter, de lever la main pour, contre, ça ne sert à rien. Ok ? Sur les propositions de loi, ce n'est pas pareil. Puisque sur les propositions de loi, vous pouvez vous abstenir. Donc vous pouvez faire baisser la jauge nécessaire pour obtenir un vote. Et quand on a vu qu'à 9 voix près, à 9 députés près, la motion de censure n'est pas passée, le gouvernement a raison de se dire que si jamais les députés opposés à la réforme des retraites votent très largement contre, enfin, pour la loi d'abrogation, vous avez compris, il va falloir que le gouvernement, cette fois-ci, réussisse à avoir une majorité de députés qui soit votent contre, soit s'abstiennent. Mais il vaudrait mieux qu'ils votent contre. Que s'abstenir, c'est pas une bonne nouvelle pour le gouvernement. Donc autant une motion de censure, la balle était dans le camp de l'opposition, charge à elle de réussir à trouver une majorité de députés qui veulent censurer Elisabeth Borne, autant là, dans le cadre d'une proposition de loi, la balle est dans le camp d'Elisabeth Borne qui doit trouver une majorité de députés qui votent contre la proposition de loi d'abrogation. Donc là, c'est Elisabeth Borne qui a la difficulté. Avant, c'était les députés d'opposition qui étaient la difficulté, charge à eux. Et maintenant, c'est Elisabeth Borne qui est en difficulté, parce que charge à elle de trouver des députés qui ne font pas que se croiser les bras en attendant, qui doivent faire le geste de voter contre en cliquant sur le petit bouton. C'est plus difficile pour Elisabeth Borne, c'est plus facile pour ses opposants. Voilà pourquoi Elisabeth Borne est assez flippée de ce vote. Deuxième raison que je voulais vous expliquer, cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites a très peu de chances d'entrer en vigueur. Pourquoi ? Parce que pour qu'une loi entre en vigueur, il ne faut pas juste que l'Assemblée nationale la vote, il faut aussi que le Sénat l'examine. Il faut que le Sénat la modifie, la travaille s'il le souhaite, et ensuite ça revient à l'Assemblée nationale, et au bout de la navette, il faut que l'Assemblée nationale puisse avoir le dernier mot. On sait déjà que le Sénat n'est pas favorable à l'abrogation de la réforme des retraites, puisque le Sénat a voté la réforme des retraites. Lui. Le Sénat est à majorité les Républicains, le Sénat est pour la réforme des retraites, donc le Sénat ne sera pas favorable à la proposition de loi qui va être examinée le 8 juin à l'Assemblée nationale. Mais pour autant, c'est pas très important. C'est bizarre ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous expliquer qu'une loi, si elle entre pas en vigueur, c'est pas très important. Non, parce que là, l'objectif, c'est pas d'obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, les députés savent très bien, les députés d'opposition savent très bien qu'ils ne peuvent pas l'obtenir. Ce qu'ils veulent obtenir, c'est un vote à l'Assemblée nationale qui abroge la réforme des retraites, ce qui est un signal politique. Ce qui est un signal politique qui envoie un message à Elisabeth Borne et à Emmanuel Macron, montrant bien que le Parlement est contre la réforme, que l'Assemblée nationale était contre la réforme des retraites, que si le Parlement, que si le gouvernement a réussi à la faire passer, c'est uniquement grâce à des tours de passe-passe d'article 49 alinéa 3 de la Constitution et autres soutiens du Sénat, mais qu'en réalité, le gouvernement est mis en minorité sur une réforme essentielle portée par Emmanuel Macron. Donc c'est pas très important. On s'en fout du Sénat. On s'en fout. C'est un argument intéressant qui est quand même utilisé par Elisabeth Borne, on va y revenir. Elisabeth Borne a raison quand elle dit aux députés « ça ne sert à rien de déposer une loi d'abrogation, vous savez pertinemment qu'elle n'entrera jamais en vigueur ». C'est un bon argument qu'elle utilise, elle a raison. C'est vrai. Les députés d'opposition n'ont pas une majorité institutionnelle suffisante pour renverser le gouvernement, on l'a vu avec l'échec de la motion de censure, et ils n'ont pas une majorité suffisante pour faire entrer une loi en vigueur. Mais les députés d'opposition répondent « on s'en fout, on a quand même... envie de montrer, d'envoyer un signal politique, de montrer qu'il y a une majorité de députés qui, quand on leur demande « êtes-vous pour ou contre la réforme des retraites ?», répondent « on est contre ». Voilà. De toutes les façons, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Oui, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot in fine, mais le Sénat et le gouvernement peuvent parfaitement ralentir la discussion sur la proposition de loi Liotte suffisamment longtemps pour qu'en fait elle n'entre jamais en vigueur. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer hier, c'est un peu subtil, mais autant quand un gouvernement a une majorité à l'Assemblée nationale mais pas au Sénat, il peut passer outre le Sénat et juste travailler avec l'Assemblée nationale pour faire passer ses lois. Ça c'est déjà vu, le Sénat ne peut pas faire obstacle au gouvernement. En revanche, si le Sénat et le gouvernement s'y mettent, ils peuvent très bien faire obstacle à une Assemblée nationale qui veut faire chier. Ok ? Donc maintenant que vous avez compris, qu'est-ce que c'est que cette loi d'abrogation ? Comment est-ce qu'on vote une loi d'abrogation ? Pourquoi est-ce que le gouvernement a raison d'avoir peur de cette loi d'abrogation qui arrive le 8 juin ? On va regarder quelles sont les stratégies que met en place le gouvernement pour essayer d'empêcher ce vote. Elisabeth Borne ne veut pas que ce vote ait lieu. Ok ? Ce qui est intéressant, c'est que la stratégie est en train d'être réfléchie du côté de la majorité, d'Elisabeth Borne, d'Emmanuel Macron, de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, Aurore Berger, la présidente du groupe, ils sont en train d'y réfléchir. Hier matin, mardi, il y avait la réunion de la majorité, le petit déjeuner hebdomadaire de la majorité, où la première ministre, la présidente de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes de la majorité se retrouvent pour faire le point sur la stratégie, l'agenda, la tactique. Ça, c'est normal, ça a lieu toutes les semaines. Au cours de ce petit déjeuner hier, ils ont abordé le sujet d'une éventuelle utilisation de l'article 40 de la Constitution qui pourrait éventuellement permettre de ne pas examiner la loi d'abrogation. Un nouvel artifice donc, que je vais vous expliquer, juridique, constitutionnel, qui pourrait éventuellement permettre au gouvernement de ne pas examiner, que les députés n'aient pas à voter sur cette proposition de loi qui l'emmerde tant. Okay ? Ce qui est intéressant avec ce petit déjeuner d'hier, c'est qu'il y a deux articles qui sont sortis pour raconter ce qui s'y est dit, dans deux journaux différents, et les deux journaux ne sont pas d'accord. Apparemment, les journalistes ont fait leur travail, ils ont téléphoné aux gens, ils ont chopé des infos, etc. pour savoir alors qu'est-ce qui s'est dit au cours du déjeuner, comment est-ce que vous envoyez les choses et tout. Mediapart, d'un côté, a sorti l'information comme quoi l'article 40 va être utilisé, et le journal Le Monde, tout aussi sérieux, a lui une autre information, semble-t-il. Je vous propose qu'on lise les deux articles et qu'on en discute. Ça va vous ? Vous êtes chaud ? Est-ce que c'est pas un aveu de défaite de bloquer le vote ? Si, bien sûr, bah, c'est toute la difficulté. Quand je vous dis qu'Elisabeth Borne est en difficulté, je plaisante pas. Hein. Soit elle va jusqu'à un vote au risque de le perdre, soit elle bloque le vote au risque d'ouvrir une crise institutionnelle majeure pour des raisons que j'expliquais sur C'est à vous la semaine dernière, en rappelant que utiliser l'article 40 pour bloquer une proposition de loi, c'est pas toujours une très bonne idée pour une majorité parce que ça peut... C'est un peu une bombe nucléaire, c'est-à-dire que si le camp d'en face l'utilise contre toi, ton pays il est rasé. Bah, c'est un peu l'idée, quoi. Merci El Floruzo pour le Prime. Le gouvernement n'avait pas déjà prévu ça en amont ? Non, le gouvernement peut pas tout prévoir. Hein. Le gouvernement peut pas tout prévoir. Le gouvernement, il est obligé de composer avec un parlement. Et dans le parlement, il y a des gens qui utilisent eux aussi... Des artifices, des articles, etc. C'est le jeu parlementaire fait que le gouvernement n'a pas absolument tout le pouvoir. Premier article, on va lire celui de Le Monde. Hop, Le Monde, le journal de Le Monde, qui titre ce matin « Retraite, deux points, la présidente de l'Assemblée nationale ne bloquera pas le texte d'abrogation du groupe Lyotte ». Le refus de Yael Braun-Pivet de prononcer l'irrecevabilité de la proposition de loi du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, Lyot, ouvre la voie à son examen à l'Assemblée nationale. Oui, alors ce que vous entendez biper, c'est la machine à laver. C'est bon, la vaisselle, c'est bon, il a fini. Tout va bien. Désolé, Tiana, désolé Zara. Hein. Excuse-moi. Hop. Comme à son habitude, Elisabeth Borne n'a rien laissé transparaître. Ce mardi 23 mai, lors du traditionnel petit déjeuner de la majorité à Matignon, la Première ministre écoute, impassible, les arguments de la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. À l'approche de l'examen en commission de l'Assemblée nationale, le 31 mai, de la proposition de loi du groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire, visant à abroger la réforme des retraites, Madame Braun-Pivet refuse d'être celle qui, au perchoir, c'est-à-dire au bureau de la présidente dans l'hémicycle, bloquera le vote d'un texte porté par un groupe d'opposition. Elle ne veut pas qu'on piétine l'Assemblée nationale, rapporte son entourage. Le sujet des retraites, qu'Emmanuel Macron tente péniblement de mettre derrière lui, s'invitera donc, fort probablement, de nouveau dans le débat public. Donc d'après Le Monde, Yael Braun-Pivet tient tête à Elisabeth Borne et refuse de rendre, de déclarer irrecevable la proposition de loi d'abrogation. Parce qu'en fait, elle pourrait techniquement la rendre irrecevable. Le camp présidentiel avait imaginé que Mme Braun-Pivet pourrait convoquer in extremis le bureau de l'Assemblée afin de prononcer l'irrecevabilité du texte au nom de l'article 40 de la Constitution qui proscrit les initiatives parlementaires dégradant les comptes publics. Il n'est pas constitutionnel de creuser le déficit de l'État de 15 milliards d'euros par an sans proposer de solution de financement cohérent en face, affirmait encore le porte-parole du gouvernement Olivier Véran mardi sur France Inter. Quand Olivier Véran dit ça, il émet une opinion. Selon le gouvernement, Elisabeth Borne l'a dit la semaine dernière, selon le gouvernement, ce n'est pas constitutionnel. Je vous rappelle que ce n'est pas le gouvernement qui décide de la constitutionnalité des lois et des procédures. C'est le Conseil constitutionnel. Mais le gouvernement a le droit d'avoir une opinion sur le sujet. Donc Olivier Véran et le gouvernement estiment que cette proposition de loi est contraire à la Constitution, puisque selon eux, c'est une proposition de loi qui contrevient à l'article 40 de la Constitution, qui interdit de creuser les dépenses ou de diminuer les recettes sans les compenser suffisamment. Ok ? Mais le refus clair et net de Yaël Braun-Pivet fait s'évanouir l'espoir d'enterrer plus vite l'initiative de Liot. Vous pouvez acheter du pop-corn, le film n'est pas fini, ironise un de ses collaborateurs. Mardi après-midi, la présidente de la commission des affaires sociales, Fadila Khattabi, qui est une députée renaissance de Côte d'Or, a fait parvenir un courrier au président de la commission des finances, Éric Coquerel, La France Insoumise. Je vous rappelle que la commission des finances est toujours présidée par un opposant au gouvernement, depuis la réforme de 2008, lui demandant de se prononcer sur l'irrecevabilité financière du texte. Monsieur Coquerel doit être mis face à ses responsabilités, avance Madame Khattabi. Donc la présidente de la commission des affaires sociales demande à son collègue président de la commission des finances de bien vouloir déclarer irrecevable la proposition de loi, comme c'est sa compétence effectivement. Jusque-là, c'est de bonne guerre. Elle a le droit de le faire, envoyer un courrier à Éric Coquerel lui demandant de prendre une décision. L'issue de cette initiative est sans suspense. L'élu mélenchoniste, donc Éric Coquerel, qui préside la commission des finances, vertement opposé à la réforme des retraites, entend défendre une coutume parlementaire. Laisser prospérer les textes des députés, y compris ceux hors des clous budgétaires, pour ne pas brider les initiatives parlementaires. Éric Coquerel, dans son rôle à la fois de président de la commission des finances, qui contrôle la recevabilité des textes, et dans son rôle d'opposant à Emmanuel Macron, ne souhaite pas déclarer irrecevable cette proposition de loi d'abrogation, puisqu'il veut continuer la coutume à l'Assemblée nationale qui veut qu'on laisse les propositions de loi prospérer, même si elles sont contraires à la Constitution via l'article 40, puisque si on commence à jouer à ce petit jeu-là, plus personne ne pourra plus rien proposer. Cette tradition, sans grande conséquence pour un pouvoir doté d'une majorité absolue, donne des sueurs froides à l'exécutif qui ne dispose plus que d'une majorité relative au Palais Bourbon. Et c'est pour ça que j'adore cette législature, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, on a un gouvernement qui n'a qu'une majorité relative et que du coup, ça rend les enjeux au Parlement extrêmement intéressants. C'est-à-dire que cette coutume, ce qu'explique le journal Le Monde, ils ont parfaitement raison, c'est que cette coutume, on s'en foutait depuis 30 ans, parce qu'en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact quand t'as un gouvernement qui a une majorité absolue, comme c'était le cas pour Sarkozy, pour Chirac, pour Sarkozy, pour Hollande et pour Macron au premier quinquennat. Mais là, ça devient un enjeu majeur. J'adore. La question fondamentale et de savoir si on doit laisser leur place à des initiatives clientélistes favorisant la surenchère démagogique, interroge Aurore Berger, la chef de file des députés Renaissance. Pour son collègue de Moselle, Ludovic Mendès, l'initiative de l'opposition poursuit un seul objectif, mettre la pression sur le président de la République et radicaliser davantage les opposants à la réforme. Les oppositions embarquées derrière le groupe Liot savourent les mois suscités par leur initiative dans le camp Macron. Évidemment, ils sont en train de gagner une manche là. C'est un signe supplémentaire de fébrilité de la minorité présidentielle qui fera tout pour empêcher un vote, charge le député centriste Charles de Courson, rapporteur du texte. Rapporteur, ça veut dire que c'est lui qui défend le texte, ok ? Les députés Liot craignent toutefois de voir se multiplier les tentatives d'obstruction des macronistes lors de l'examen de leur texte en séance publique prévue le 8 juin dans le cadre de leur niche parlementaire. Outre le dépôt massif d'amendements ou la multiplication de prises de parole en séance pour ralentir les débats, Liot imagine le recours à un vote bloqué de la part du gouvernement, lui permettant de réunir puis de soumettre au vote les amendements de son choix en séance. Le vote est le seul chemin pour apaiser le pays et créer les conditions d'un retour à une forme de sérénité dans l'hémicycle, prévient Benjamin Saint-Huile, député Liot du Nord. Avec ce scrutin, l'opposition cherche à démontrer que l'exécutif a imposé sa réforme des retraites en faisant fi de la représentation nationale. Et ils sont en train de réussir à le faire, c'est vrai. Mais la majorité contre-attaque, au point que trois députés corses du groupe Liot, Jean-Félix Acquaviva, Michel Castellani et Paul-André Colombani, je vous expliquais tout à l'heure que dans Liot, il y a des députés autonomistes corses, disent avoir reçu des pressions afin de les convaincre de se désolidariser de la démarche de leur groupe. Dimanche 21 mai sur France 3, le président du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, lui-même élu de Corse, les a mis en garde. En soulignant qu'un vote en faveur du texte abrogeant la réforme des retraites pourrait selon lui contrarier les discussions sur l'avenir institutionnel de l'île. Intéressant. Il y a en ce moment des discussions sur l'avenir institutionnel de la Corse, de la même manière qu'il y a des discussions, ça a été ouvert en 2022 par Sébastien Lecornu à l'époque, il y a également des discussions sur l'avenir institutionnel des départements et des régions d'outre-mer. Rappelez-vous, l'année dernière, la Guadeloupe, etc. Okay. Donc là, Laurent Marcangeli, il dit à ses collègues corses, attention les gars, si vous vous fâchez avec le gouvernement, ça ne va pas aller dans le sens de la Corse dans les négociations qu'on a en ce moment avec le gouvernement sur l'avenir de l'île. Il n'a pas tort, c'est de la politique. Le gouvernement qui est prêt à travailler sur l'avenir de l'île de Corse, s'il a des parlementaires qui cherchent à le dézinguer, on peut comprendre le gouvernement qui va dire « Bon, bah, écoutez les gars, puisque c'est comme ça, vos demandes, vous les foutez au cul. » C'est de la corruption. Non, c'est pas de la corruption, c'est de la politique. C'est de la politique. Ça fait totalement partie du travail parlementaire. C'est normal, dans une négociation parlementaire, de demander aux députés d'être cohérents en disant « Mais vous êtes court ou pour ou contre le gouvernement, il faut choisir. » Tu peux pas dire ça, franchement, Jean. Mais bien sûr que si, je peux dire ça. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils sont en train de faire, la NUPES, en ce moment, si c'est pas se faire des négociations entre eux sur la liste unique aux européennes ? Bien sûr que ça négocie dans tous les sens. Dans le privé, ce serait de la corruption. Non, c'est de la négo. C'est de la négo pure. Vous croyez que les entreprises, elles font quoi ? Elles négocient tout le temps comme ça ? Si tu me fais un tarif sur cet achat-là, moi, je peux voir comment je peux essayer d'arranger le coût sur cet autre contrat. Tu peux pas expliquer les choses, Jean, voyons. Ah non, mais on appelle ça chantage quand c'est dans le camp d'en face, mais alors quand c'est à la maison, ça gêne personne. Mais évidemment que tous les groupes font ça. Je trouve ça honteux, les deux sujets sont pas liés.
Ah bah.
D'où la cohérence d'un travail parlementaire. Ça ressemble un peu à du trafic d'affluence. Mais c'est quoi pour vous la politique ? Si ce n'est justement de peser de tout son poids et de son influence pour essayer de faire avancer les choses dans sa direction. Les députés font pression sur le gouvernement pour essayer d'atténuer ou de modifier ses ambitions. Le gouvernement essaye d'obtenir des alliés dans son travail. On discute, on négocie, on avance. Quelle différence on fera entre négociation et corruption ? Ça aiderait peut-être à comprendre la nuance. La corruption, c'est le fait de détourner de son mandat ou de sa charge un responsable public ou un fonctionnaire de manière à obtenir une décision favorable ou un avantage de quelque nature que ce soit. Ne vous renseignez jamais sur les négociations dans les politiques locales. Ah non, puis alors surtout, vous renseignez jamais sur comment est-ce que la NUPES est née. Hein. Alors là, ça, je veux dire, les négociations de la NUPES, en ce moment, en plus sur les européennes, c'est ça toute la journée. Hein. C'est OK pour le nucléaire, mais en revanche, il faut qu'on avance sur le paquet machin. OK pour la taxation des transactions financières, mais par contre, on va y aller mollo sur l'Ukraine. Enfin, je veux dire, c'est comment vous croyez qu'on négocie un programme commun ? Je veux dire, c'est l'histoire de la gauche, hein, que de négocier, discuter, etc. C'est de la politique. Bah oui, c'est de la politique. Essayez d'obtenir des votes. Regardez le film. Comment il s'appelle ? Lincoln. Vous verrez comment a été adoptée l'abrogation de l'esclavage aux États-Unis. Vous verrez, c'est moche, hein. Les accords entre députés, c'est pas pareil que les pressions gouvernement-député. Mais si, c'est pareil, puisque le gouvernement dépend de la majorité à l'Assemblée. Oui, l'abolition, pas l'abrogation, pardon. Excusez-moi, je suis dans ma phase d'abrogation. L'accord était dans un pack. Ah, là, ça y allait plus violemment. Hein. Là, il promettait carrément des postes. Hein. Le rapport de force, c'est pas le même. Bah, si, puisque le gouvernement dépend de la majorité, donc... Si ces tractations étaient légales et morales, elles ne se feraient pas en sous-main, c'est pas parce que c'est habituel que c'est légal. Bah, elles se font pas en sous-main, regarde. Justement, ils en parlent. Y a pas de complot, hein. Il y a un jeu assez habituel, assez classique, assez parlementaire en réalité, de discussions et de négociations entre des groupes pour essayer de former des majorités de projets, des majorités sur des textes. C'est classique comme jamais, hein, ce qui est en train de se passer. Et c'est classique, enfin c'est immoral, c'est à vous de voir les choses, mais c'est. C'est la discussion qu'on avait déjà à vous-même quand vous allez voter. Je vous rappelle que vous négociez avec vous-même, hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tout, mais accepter de faire des compromis. Et accepter un compromis, c'est quoi d'autre? Tant de naïveté. Non, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant d'interroger justement ce rapport aux politiques. Mais c'est vrai que je trouve ça chou. Je trouve ça un peu. Ouais. L'idée que les politiques ne prennent des décisions qu'au regard de leurs convictions en permanence, etc. Non, les politiques, ils sont dans un environnement de contraintes et ils jouent avec ces règles pour essayer d'en tirer le meilleur parti autant que possible pour aller dans leur sens. C'est le côté moral qui choque. Côté moral, bah ouais, non, moi je trouve pas ça immoral, mais après c'est peut-être encore une fois une déformation parce que je viens de la politique, que j'ai fait ça pendant des années, etc. Mais négociation budgétaire, c'est ça, hein. Négociation entre partis, c'est ça. Négociation entre pays européens, alors ça, je vous en parle même pas. Alors ça, matin, midi et soir, sur les paquets législatifs européens, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays du Nord, les pays d'Europe de l'Est, alors là, ça négocie. Non mais je trouve ça intéressant comme discussion. Je trouve que t'es trop dedans pour te rendre compte de ce qu'on trouve immoral dedans, mais c'est compréhensible. J'essaye d'imaginer du coup comment fonctionnerait la politique idéalement selon vous, selon ceux qui trouvent ça immoral. C'est tout de même une négo un peu poussive. Ah bah c'est une négociation âpre, ça je te le garantis. Merci le Baron 38 pour ton prime. Disons que c'est pas le côté le plus noble du combat politique. Ah, certainement, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est tout le principe quand on est jeune et qu'on demande un truc à nos parents, on promet de ranger notre chambre. C'est la même chose pour les grands. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Si tu veux une Nintendo Switch, il faut que tu aies des bonnes notes à l'école. Oh, c'est du chantage. Non, c'est de la politique. C'est la première fois que le groupe Lyot existe. Non, il existait déjà sous la précédente mandature, mais il avait un autre nom. Il s'appelait comment? Mes parents étaient de bons politiques. Moi, les miens, j'arrivais à les embrouiller à la fin, mais. Liberté et territoire, merci. Liberté et territoire, c'était le précédent nom du groupe Liot, qui maintenant s'appelle Liot. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, je continue l'article, parce que vous allez voir que Mediapart, ils ont une lecture différente de la réunion de mardi matin. Donc. Les députés corses, tac tac tac, disent avoir reçu des pressions afin de convaincre de se désolidariser de la démarche de leur groupe. Dimanche 21 mai sur France 3, le président du groupe Horizon, Laurent Marcangeli, lui-même élu en Corse, les a mis en garde, en soulignant qu'un vote en faveur du texte abrogeant la réforme des retraites pourrait, selon lui, contrarier les discussions sur l'avenir institutionnel de l'île. La proposition de loi a de fait des chances d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Et s'il est peu probable que le texte soit ensuite validé au Sénat, le camp présidentiel redoute de subir une défaite symbolique à l'effet potentiellement dévastateur dans l'opinion publique. De grâce, laissons la loi s'appliquer. Si tous les 2 ou 3 mois on a un texte pour abroger ce que fait le gouvernement, je ne vois pas comment on va diriger ce pays, plaide Jean-Paul Mattei, le chef de file des députés MoDem, avant d'avouer, c'est vrai, on aimerait bien passer à autre chose. Et c'est là que les députés d'opposition sont en train effectivement de réussir le tour de force, d'empêcher le gouvernement de passer à autre chose. Les députés d'opposition, opposés à la réforme des retraites en tout cas, sont en train de réussir à nous refaire parler de la réforme des retraites en juin, fin mai, début juin, alors que le gouvernement essaye depuis 3 semaines de passer à un autre sujet. Ça aussi, c'est de la politique. Et c'est pas lui qui décide. Et c'est pas lui qui décide. C'est bien le problème, t'as pas une majorité, tu peux pas bien gouverner le pays. Exactement. Désolé Jean-Paul Mattei. Mais si tu veux pas avoir de loi d'abrogation tous les 2 mois, bah il faut mieux négocier tes lois, hein. Donc voilà, donc tout ça pour dire que l'article de Mediapart réexplique que l'article 40 de la Constitution pourrait potentiellement permettre le président de la commission des finances, Éric Coquerel, de juger irrecevable la proposition de loi, ce qu'Éric Coquerel ne veut pas faire, et on le comprend, il ne veut pas le faire pour 2 raisons, d'une part parce qu'il est lui-même personnellement opposé à la réforme des retraites, donc il aimerait bien qu'elle soit adoptée cette proposition de loi, et d'autre part parce que la coutume à l'Assemblée nationale, l'usage, l'habitude, veut qu'on n'utilise pas l'irrecevabilité budgétaire contre les propositions de loi, parce que sinon plus personne ne pourra plus jamais proposer de loi. Il y a une autre possibilité pour juger recevable cette proposition de loi, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, présidé par Yaël Braun-Pivet, peut déclarer recevable une proposition de loi. Il se trouve que la proposition de loi dont on parle, celle de Charles de Courson là, a déjà été jugée recevable par le bureau une première fois. Mais il pourrait exister une solution pour la rendre irrecevable. Alors même que le gouvernement a d'ores et déjà, alors même que le bureau a d'ores et déjà déclaré recevable une proposition de loi. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour déclarer irrecevable une proposition qui a été déclarée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale? Et c'est là que je vous invite à lire avec moi l'article de Mediapart qui vous explique qu'il y a éventuellement une astuce que le gouvernement pourrait être amené à utiliser via Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sur ce sujet. Le plan secret du pouvoir pour éviter l'abrogation. Ta-ta-ta-ta. Pour échapper au vote sur la proposition de loi du 8 juin, le pouvoir a imaginé une manœuvre inédite qui serait portée dans l'hémicycle par la présidente de l'Assemblée nationale. Longtemps réticente à une telle idée, Yaël Braun-Pivet s'y serait résolue mardi matin lors d'un petit déjeuner à Matignon. Depuis plusieurs semaines, les stratèges du pouvoir tentent à tout prix de tuer dans l'œuf la proposition de loi du groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, LIOT, visant à abroger la réforme des retraites, dont l'examen est prévu le 8 juin à l'Assemblée nationale sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Quitte à faire feu de tout bois. Mardi matin, lors du petit déjeuner hebdomadaire de la majorité, Elisabeth Borne et les principaux cadres du camp présidentiel auraient trouvé la martingale. Après avoir utilisé les articles 47.1, 49.3 et 44.3 de la Constitution pour contraindre la procédure parlementaire en mars, l'exécutif s'apprêterait à en convoquer l'article 40. Celui-ci permet de prononcer l'irrecevabilité financière d'un texte ou d'un amendement au nom de son impact négatif sur les finances publiques. C'est-à-dire toi, martingale, martingale, c'est le gros lot. Ils ont trouvé le gros lot, ils ont trouvé le trésor. C'est ça une martingale. Une solution. La martingale. La solution magique. Voilà. C'est ça une martingale. On est d'accord? Oui, bref. Normalement réservé au président de la commission des finances, c'est vrai, c'est lui qui juge la recevabilité financière des amendements et des propositions, l'insoumis Éric Coquerel, la procédure serait activée dans l'hémicycle par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale. Au prix d'une manœuvre inédite, attention, accrochez-vous, la suppression en commission de l'article premier du texte et sa réintégration par un amendement dans l'hémicycle. Seule façon de contourner les usages de l'institution. On lit l'article et je vous explique après si vous n'avez pas compris. L'éventualité fait bondir Éric Coquerel. Je cite Éric Coquerel. Ça voudrait dire qu'elle me passe dessus pour rendre une disposition irrecevable alors qu'elle a été jugée recevable par la commission des finances, s'indigne le député. Le cas échéant, je serai totalement légitime à déclarer les amendements recevables au vu de la proposition de la loi initiale. Et l'insoumis, qui jure n'avoir retrouvé aucun précédent de ce type dans les archives, d'avertir. J'ai du mal à le croire que ce serait faire l'inverse de ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, même si Yaël Braun-Pivet se lançait dans une manœuvre de ce type, ce serait politiquement extrêmement coûteux pour elle. Ça chauffe entre le président de la commission des finances de l'Assemblée et la présidente de l'Assemblée nationale. La pression est forte. Depuis plusieurs semaines, vous avez vu, c'est du chantage qu'il fait Éric Coquerel. Non, je déconne. C'est un retour sur la discussion qu'on avait avant. Non, mais quand c'est Éric Coquerel qui le fait, c'est pas du chantage, c'est cool. Ça va, on rigole. On rigole, mais comme quoi. La pression est forte depuis plusieurs semaines sur les épaules de la présidente de l'Assemblée, pressé d'utiliser ses prérogatives budgétaires. On doit et on peut convoquer l'article 40, lui a lancé le député Renaissance Éric Woerth lors d'une réunion, selon les propos rapportés par le Figaro. Cette proposition d'abrogation est inconstitutionnelle, avait avancé la première ministre mercredi 17 mai. Il faut que chacun en soit conscient et prenne ses responsabilités. Ce truc n'aurait jamais dû passer le premier filtre de l'Assemblée, traduisait un ministre la semaine dernière. Ce à quoi l'intéressé a répondu, encore mardi à Matignon, que le règlement de l'institution lui interdisait d'outrepasser en la matière le président de la commission des finances. L'élu des Yvelines, Yael Braun-Pivet, donc présidente de l'Assemblée nationale, a aussi écarté une autre option à sa disposition, la convocation d'un bureau exceptionnel de l'Assemblée. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir demain, personne ne peut plus déposer aucune PPL avec cette jurisprudence, aurait-elle expliqué en substance. Et elle a raison. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le bouton nucléaire. Si aujourd'hui il l'utilise pour empêcher l'abrogation de la réforme des retraites, demain tout le monde pourra l'utiliser pour toutes les propositions de loi. De la discussion aurait alors émergé une troisième hypothèse. Si Yael Braun-Pivet ne peut pas déjuger le président de la commission des finances au sujet d'une proposition de loi, elle peut le faire pour un amendement, ont avancé plusieurs participants. D'où le scénario retenu. Un amendement de suppression de l'article 1 de la proposition de loi serait voté par la commission des affaires sociales, avec l'appui d'une partie des élus LR. Ok ? Donc en commission, l'article 1 est rejeté. L'opposition serait alors contrainte de réinsérer cet article en séance publique via un amendement. Parce qu'un article qui a été dégagé en commission, vous pouvez le réintroduire en séance publique, donc dans l'hémicycle. Pour ça, vous devez déposer un amendement de réintégration de l'article. Et c'est cet amendement de réintégration de l'article 1 qui sera alors jugé et recevable par la présidente de l'Assemblée au titre de l'article 40 de la Constitution. Puisqu'en séance publique, c'est bien la présidente qui juge de la recevabilité des amendements. Vous avez compris la distinction ? Longtemps réticente à l'idée d'être celle qui empêcherait un vote aussi attendu, l'intéressé aurait approuvé l'idée lors du petit déjeuner à Matignon. Elle n'avait pas vraiment le choix, sourit un cadre de la majorité. Elle s'est retrouvée au pied du mur, et si elle disait non, c'est comme si elle quittait la majorité. J'ai envie de dire au point où elle en est, bref. Si le coût à payer pour rester dans la majorité, c'est de faire ça à l'Assemblée nationale en tant que présidente. Bref, c'est mon point de vue. Hein. Je ne suis pas présidente de l'Assemblée nationale. Dans le camp macroniste, on justifie cette débauche d'inventivité législative par l'épouvantail qu'en constitue le vote du 8 juin. Un parlementaire souffle. Vous imaginez si le texte est adopté ? C'est un tsunami ! Ce serait l'arrêt du quinquennat ! Après ça, on ne peut plus rien faire ! C'est vrai. Un cadre de la majorité confirme. On est tous d'accord sur un point, c'est qu'on ne peut pas prendre le risque d'aller au vote. Il faut à tout prix l'éviter. L'opposition prépare sa riposte. Oui, parce que l'opposition ne sont pas débiles non plus. Dans les rangs de l'opposition... Dans l'entourage de Yael Braun-Pivet, on se borne à reconnaître que la présidente peut effectivement utiliser l'article 40 sur un amendement déposé en séance. Un droit qu'elle avait déjà exercé contre l'avis d'Éric Coquerel au sujet de la réintégration des soignants en juillet 2022, c'est vrai. L'insoumis avait alors dénoncé une décision abusive. Aujourd'hui, on arrive à peine au stade de commission qui doivent examiner le texte et sa recevabilité. Je vous rappelle que c'est la semaine prochaine que le texte sera examiné en commission. Il y a 2 semaines avant la séance, répond-on à l'hôtel de Lasset, donc pas de politique fiction. L'hôtel de Lasset, c'est le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale. Dans les rangs de l'opposition, on reste dans le brouillard quant aux manœuvres qui seront utilisées, mais on ne se fait pas d'illusions. Ils cherchent tous les moyens pour empêcher le vote, affirme Charles de Courson, le rapporteur du texte. Une réunion informelle a été organisée mardi à 18h avec quelques députés du groupe Liotte et de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la NUPES, pour établir une cartographie des risques. On va passer en revue tous les artifices de procédure qu'ils peuvent nous sortir pour pouvoir y répondre, indique un député qui participe à la réunion. Donc là, du côté de la NUPES et de Liotte, réunion de crise. Ils sont en train de regarder tous les plans de bataille possibles, tous les arguments, tous les articles du règlement intérieur, hop là, que la majorité serait prête à utiliser. Et ils disent, alors ok, s'ils nous dégainent ça, qu'est-ce qu'on fait ? S'ils font ça, qu'est-ce qu'on déprépare ? Et du coup, est-ce qu'on doit préparer des trucs, des amendements, des machins, des procédures, des recours, etc. Ça va être sport, hein, le 8. Outre l'éventualité du recours à l'article 40, le gouvernement peut également imposer un vote bloqué. Vote bloqué, c'est un vote unique sur toute ou partie du texte en ne gardant que les amendements retenus par le gouvernement. Ça, effectivement, le gouvernement peut avoir recours à ça. Ou plus simplement faire de l'obstruction, aidé par la majorité afin d'empêcher le vote dans l'hémicycle. Ça, l'obstruction, j'y crois pas, d'ailleurs, c'est ce qui est écrit après. Jusqu'à présent, la présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, a refusé, s'est refusé à envisager cette dernière hypothèse, tout comme ses collègues Laurent Marcangeli et Jean-Paul Mattei. En fait, les députés de la majorité, donc Aurore Bergé, Marcangeli et Mattei, ils ne veulent pas faire d'obstruction pour une raison très simple, c'est qu'ils passent leur temps à reprocher aux insoumis de faire de l'obstruction. C'est difficile de reprocher aux insoumis de faire de l'obstruction et d'en faire soi-même après. J'allais dire un truc, mais je vais laisser tomber. Mais elle aura toutefois assoupli sa position lors de la réunion de mardi. Si le scénario de l'article 40 venait à échouer, la majorité se tiendrait prête à ralentir autant que nécessaire le rythme de la séance, en multipliant les amendements, les rappels au règlement ou les suppressions de séances. Jusqu'aux 12 coups de minuit, qu'attendent déjà avec impatience les soutiens du chef de l'État. Donc, la réunion mardi à Matignon avec les huiles de la majorité. Visiblement, de ce que j'en comprends, le journal Le Monde, ils ont eu au téléphone l'entourage de Yael Braun-Pivet qui ont dit « Non, mais Yael Braun-Pivet ne va pas déclarer recevable la proposition de loi Liot, juste c'est pas possible, niquez-vous, elle tient bon face à Borne. » Et visiblement, Mediapart, ils ont réussi à passer des coups de fil du côté du gouvernement où il y a d'autres participants à la réunion. Il y a d'autres participants à la réunion qui ont répondu « Ouais, ouais, c'est bon, Yael Braun-Pivet, elle est prête à déclarer irrecevable un amendement de réintroduction de l'article 1 qu'on aura préalablement réussi à supprimer en commission. » Qui dit vrai, qui dit faux, je sais pas. Je pense que Yael Braun-Pivet, elle continue à faire monter la pression. Elle tient bon face à Borne et à Macron. Parce que Yael Braun-Pivet aussi, je pense, hein, je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec elle et tout, mais je me dis qu'elle a aussi un calcul à faire dans sa tête, c'est de se dire, attends, est-ce que j'ai envie d'être la première présidente de l'Assemblée nationale qui torpille le parlementarisme de la Ve République en créant une nouvelle jurisprudence sur l'article 40 des propositions de loi? Tout ça pourquoi? Pour sauver le gouvernement d'Elisabeth Borne, qui n'a pas été foutu de faire adopter son texte en négociation avec les Républicains, est-ce que j'ai envie de sacrifier ma carrière politique sur l'autel de la carrière d'Elisabeth Borne? J'ai une question, si elle quitte la majorité, est-ce que ce ne sera pas une perte pour la majorité qui perdrait aussi la présidence de l'Assemblée? Non, parce que la majorité à l'Assemblée pourrait voter, élire un autre ou une autre présidente de l'Assemblée nationale. Pour ça, il faudrait qu'ils réussissent à se mettre d'accord. Déjà qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une réforme des retraites. Bon. C'est Macron qui ne voulait pas du vote, pas Borne. Bah, alors oui, c'est toujours la question de savoir pourquoi est-ce que la réforme des retraites n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Il y en a qui disent que c'est à cause du gouvernement qui a utilisé le 49-3, et il y a ceux du gouvernement qui répondent « Ouais, enfin bon, si les insoumis n'avaient pas fait de l'obstruction, on l'aurait voté cette réforme. » Et aucun des deux n'a tort. Aucun des deux n'a tort. Attention, hein. Faut pas... Je comprends pas comment tu peux amender un texte d'abrogation. C'est une question purement technique, mais je pige pas. Toute proposition de loi peut être amendée. Une proposition de loi, ce n'est rien d'autre qu'un texte que tu proposes, et t'as 577 collègues qui peuvent tous proposer de modifier ton texte. C'est ça un amendement. Tu peux tout amender. Tu peux faire des amendements de suppression, tu peux faire des amendements additionnels, tu peux faire des articles additionnels, tu peux changer un mot, une virgule, une phrase, un chiffre. Voilà. Est-ce que justement, il pourrait virer Yael Braun-Pivet et en mettre un autre qui accepterait de torpiller le truc? Pas d'ici au 8 juin, non. Pas d'ici au 8. Attendez, j'ai un appel. Oui, allô? Oui, allô? Excusez-moi, compte CPF, tout ça, connerie. C'est Yael Braun-Pivet. Non, c'est pas Yael. C'est pas Yael Braun-Pivet. Donc, la pression est forte en ce moment du côté de Yael Braun-Pivet vis-à-vis de Macron et d'Elisabeth Borne. Bon, on sait déjà que les relations entre Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron sont pas au beau fixe. Emmanuel Macron voulait pas que ce soit Yael Braun-Pivet qui soit élu président de l'Assemblée nationale. Mais OSEF, les députés, en ont décidé autrement. Non, ouais, c'est facile. En plus, Yael Braun-Pivet, elle se souvient de la difficulté qu'elle a eue quand elle présidait la commission des lois à l'Assemblée nationale. Elle a arrêté la commission d'enquête sur l'affaire Benalla et tout le monde lui a reproché en disant que c'était de sa faute et que c'était la preuve d'une soumission de l'Assemblée nationale au desiderata d'Emmanuel Macron et de l'Élysée. Elle avait très bien expliqué sur le plateau de Brexit que c'est plus compliqué que ça. Allez voir l'émission si vous voulez. Je suis pas sûr qu'elle ait envie là de re-signer pour un tour. Quelle règle permet de supprimer un article d'une proposition de loi qui ne vient pas de toi? N'importe quel député peut déposer un amendement de suppression d'un article. Et s'il y a une majorité des membres de la commission qui le votent, alors l'article est supprimé. Aussi simple que ça. Comment Yael Braun-Pivet peut se faire virer du perchoir si jamais elle n'écoute pas Matignon? Tu peux pas virer un président de l'Assemblée nationale, par contre tu peux élire un autre président de l'Assemblée nationale. Donc si Matignon en a marre de Yael Braun-Pivet, eh ben, ils peuvent très bien se démerder avec les députés de la majorité pour essayer de trouver une nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Bon courage. Je dis bon courage parce que je ne crois pas un quart de seconde qu'ils réussiront à trouver une majorité pour une nouvelle présidente, surtout si les conditions du départ de Yael Braun-Pivet, c'est ça. Ça risque pas de créer une fronde dans la majorité, ben si justement. Justement, c'est-à-dire que, regardez le scénario, si Yael Braun-Pivet tient bon, qu'elle défend l'Assemblée nationale et ses procédures et ses usages face au gouvernement, que le gouvernement se prend un vote d'abrogation de la réforme des retraites, qui perd des plumes, etc. Imaginez qu'Elisabeth Borne, Emmanuel Macron vont vers les députés en leur disant « Bon, faudrait changer de présidente, celle-là elle est nulle, elle est chiante, elle a permis à l'abrogation d'être votée. » Les députés, ils pourront répondre « Non mais allez vous faire foutre en fait, nous on est députés, on protège aussi l'institution. » Enfin, je veux dire, c'est pour trouver une majorité capable de voter pour un nom d'un président, pour dégager un autre président de l'Assemblée nationale qui aura eu l'audace de défendre l'institution qu'elle préside. Parce que là, je veux dire, c'est tout ce que Macron reproche à Elisabeth Borne, tout ce que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron reprochent à Yael Braun-Pivet, c'est juste de faire son job de présidente de l'Assemblée nationale, hein. Défendre l'Assemblée. Il y a un moment, tu peux pas demander à un président d'Assemblée nationale de saboter sa propre institution. Enfin, ça va te faire enculer, quoi. Enfin, je sais pas, niquez-vous, quoi. C'est vous qui avez pas de majorité, c'est pas moi. Hein. Vous avez qu'à faire des réformes en les faisant voter, hein, plutôt que de 49-3. C'est fou, ça. Pourquoi ce serait à Yael Braun-Pivet de payer le prix du 49-3? Non mais oh! Donc vous voyez, et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que les députés pourraient se dire si jamais on leur demande de changer de présidente. Les députés, ils diront, mais pourquoi on changerait de présidente? Yael Braun-Pivet nous a défendu, hein. Elle a défendu l'institution. Si vous voulez qu'on change de président, il va falloir faire pire que ça, quoi. Donc les députés Renaissance ne seraient pas complètement soumis à la parole de Macron. Et c'est là qu'on rentre dans un autre enjeu intéressant. À quoi jouent les députés Renaissance? Emmanuel Macron ne peut pas être réélu en 2027. Est-ce que ça vaut le coup de s'en prendre plein la gueule matin, midi et soir pour défendre un homme qui méprise le Parlement? Est-ce que quand tu es député, élu depuis 2017 ou depuis 2022, t'as intérêt toi aussi à sacrifier ta tronche, ta carrière, ton combat, ton honneur, ton éthique, ton intégrité sur l'autel d'un président de la République qui s'en branle de ton avis, de tes votes, qui préfère passer par 49-3, etc. Il y a un moment, il y a aussi, c'est peut-être dans ces petits moments-là qu'on peut voir aussi des députés commencer à devenir des vrais députés, des députés de la majorité commencer à dire au président, écoute, tu me pètes les burnes, de toute façon tu peux plus être président après 2027, donc j'ai pas à te plaire, j'ai pas ma réélection ne dépend pas de toi, la suite de ma vie politique ne dépend pas de toi, donc en fait tu vas arrêter tes conneries et moi je vais arrêter de soutenir les tiennes, voilà. Je peux aussi comprendre des députés qui font ça, c'est un petit peu entre les lignes. Ce qu'il fallait comprendre de l'interview de Barbara Pompili sur le plateau de Backseat la dernière fois qu'elle est venue. Barbara Pompili qui dit « Non, moi je suis contre la réforme des retraites, je voterai pas la réforme des retraites. Si elle avait été votée, je l'aurais pas votée. » Barbara Pompili, elle se rebelle face à un président et un gouvernement qui méprisent le Parlement. Discours un peu orienté. Oui, c'est un discours un peu orienté. Évidemment que c'est un discours un peu orienté que je suis en train de vous dire. C'est que j'essaie de me mettre dans la peau d'un député Renaissance qui cherche des raisons de ne pas soutenir le gouvernement dans son jusqu'au-boutisme. Mais je comprends aussi l'argumentaire d'autres membres de la majorité, que d'ailleurs on retrouve dans l'article de Mediapart et dans l'article du Monde, qui disent attendez, vous êtes gentil, mais enfin, si une loi d'abrogation est votée 3 ou 4 semaines après la promulgation d'une loi, plus personne ne peut gouverner ce pays, en fait. Ils n'ont pas tort, hein. Qu'à un moment, s'il y a des majorités de circonstances qui se créent pour dézinguer tout ce que fait le gouvernement sans offre alternative crédible, je suis d'accord avec eux pour dire que c'est un problème. C'est vrai, hein. Me faites pas croire que la NUPES, l'IOT et le RN sont prêts à gouverner le pays ensemble. Dans ce cas-là, dissolution et retour au vote. Oui, bah du coup, on remet une pièce dans la machine des discussions qu'on avait il y a un mois, mais oui. Est-ce qu'il y a un scénario où Emmanuel Macron dissout l'Assemblée? Je vous repose la question que je vous posais la dernière fois. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario où Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée? Pourquoi ça empêche de gouverner le pays? Ils peuvent bien continuer à gouverner, mais autrement. Oui, alors au demeurant, oui. Non, non, mais c'est ça. Effectivement, t'as raison. Faut être précis sur les mots qu'on utilise. C'est pas tant gouverner le pays qui devient impossible, c'est mener le train de réforme voulu par Emmanuel Macron. Pas la même chose. NUPES et RN pourraient bien gouverner ensemble puisque les extrêmes se rejoignent. J'ai bien compris les propos du Zul dans cet avou. Oui, c'est ça. Et oui, puisqu'en plus, les antiracistes sont les nouveaux racistes et que du coup, les racistes sont les nouveaux antiracistes. Ils peuvent se retrouver d'une manière ou d'une autre. J'ai bien tout compris là? C'est ça. Si les antifas sont les nouveaux fas, ça veut dire que les fas sont les nouveaux antifas? Hein? Zemmour est en train de monter un mouvement antifa pour lutter contre les antifascistes qui sont fascistes. Non, mais, enfin bref. Oh, attendez, je viens d'avoir un éclair de génie qui m'a traversé la tête. Et si Emmanuel Macron dissolvait l'Assemblée nationale avant les européennes, de manière à ce que les électeurs aillent voter aux européennes et aux législatives le même jour. Profiter de l'organisation des élections européennes pour faire voter les Français sur de nouvelles législatives, de manière à bénéficier autant que possible du léger boost qui est apporté par les élections européennes pour le camp macroniste très europhile. En fait, je retourne la question pour que vous compreniez qu'est-ce qui m'a fait venir à cette conclusion. Comment est-ce que mon esprit brillant et machiavélique est arrivé à cette idée? Est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à dissoudre? Non, parce que si Macron dissout l'Assemblée nationale, il perd la majorité qui est déjà relative qu'il a. Ok. Dans un contexte où Emmanuel Macron n'a quasiment jamais intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale, mais qu'il est quand même contraint de le faire, quel est le moins pire moment pour dissoudre l'Assemblée nationale? Eh ben, c'est de faire voter les gens au moment où les gens sont les plus réceptifs au discours des macronistes, c'est-à-dire les élections européennes. Je vous rappelle que les élections européennes de 2020, le gouvernement s'en est pas trop mal sorti. C'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête, certes, mais pour une élection de mi-mandat, pour une élection intermédiaire qui aurait dû être vraiment un laminoir pour la majorité s'en est pas trop mal sortie. Zéro intérêt à dissoudre. Je vous parle pas d'un intérêt à dissoudre, je vous parle d'une contrainte à dissoudre. Je réfléchis pas dans une logique où Emmanuel Macron a envie de dissoudre. Je pars du principe qu'il n'a pas envie de dissoudre. Mais j'essaie d'imaginer un scénario où il n'a pas le choix de dissoudre. Il doit le faire, parce que de toute évidence, on ne peut plus fonctionner comme ça. À ce moment-là, quelle est la moins mauvaise date qu'il est obligé de choisir? Qu'est-ce qu'il contraint à dissoudre? Ce qui contraint un président de la République à dissoudre, c'est simplement l'absence de majorité à l'Assemblée nationale qui rend ingouvernable le pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Un président de la République peut être amené à dissoudre parce qu'il n'y a pas d'autre choix en fait. Si le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, que les oppositions arrivent à créer des majorités de circonstances qui abrogent les lois passées par le gouvernement par 49-3 sans proposer d'alternative possible, le président de la République, il n'a plus d'autre choix que de constater qu'en fait, il n'y a pas de gouvernement possible. pas ingouvernable, mais pas réformable. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Adrien, t'as pas tort. T'as pas tort. Au contraire, ça peut forcer les conciliations. Bah jusqu'à présent, ça marche pas très bien. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, il a tendu la main à plusieurs reprises. Il a proposé aux députés de travailler ensemble pour trouver des majorités de projets. À part la constitutionnalisation de l'IVG, on n'en a pas vu, hein. Ou pas beaucoup. Oui, les éoliennes, oui. Est-ce qu'une cohabitation est vraiment souhaitable? Ça dépend avec qui. Marine Le Pen, Première ministre? Avec quelle majorité? Maintenant que les Républicains sont sortis du bois sur l'immigration et qu'ils ont fait un copier-coller du programme de Marine Le Pen, c'est un bon début pour gouverner ensemble. Marine Le Pen sera-t-elle la nouvelle Mélanie? Merci Tizassan pour ton prime. Ou alors, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Adrien Quatennens, ministre de l'Intérieur. Avec quelle majorité? Allez voir que les faiseurs de rois, ça va devenir le MoDem. Vous allez voir que finalement, le chantage, ça a du bon. En politique. Finalement, tout bien réfléchi. Le MoDem toujours bien placé. Ah, bah ça, les centristes, dans les jeux parlementaires, c'est toujours les mieux placés, hein. OMG, la claque. Ah non, on verra. On verra. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment fera le Premier ministre Jean-Luc Mélenchon pour trouver une majorité pour voter sa loi de sortie du nucléaire? Je ne sais pas comment il va faire. Il va falloir qu'il négocie. Ça risquerait pas d'aller à gauche, d'allier la gauche et pour les législatives et pour les européennes de dissoudre dans le même calendrier? Ben non. Mais non, parce qu'en plus, comme la gauche est divisée aux européennes. Non mais attendez, tu viens de donner un argument super pour mon scénario machiavélique là. Puisque la gauche est divisée pour les européennes, si tu fais des législatives en même temps, comment ils vont faire la gauche pour se mettre d'accord pour les législatives sans se mettre d'accord pour les européennes? Là, ils auront l'air cons, les partis de gauche, à présenter des candidats séparés, des listes séparées aux européennes, tout en présentant des candidats communs dans les circonscriptions. À un moment, tu peux prendre les électeurs pour des cons, mais pas trop. Hein, Non, mais c'est pas les mêmes élections, donc c'est pas très grave. Allez. Sauf que si elles ont lieu le même jour, t'as vraiment l'air con. Hein. L'erreur 404. Non, mais attends. Là, Macron. Il pourrait avoir intérêt, je vous dis, hein, il pourrait avoir, s'il n'a pas le choix et qu'il est obligé de dissoudre, il pourrait avoir intérêt à le faire avant les européennes, pour que les gens votent le même jour pour les européennes et pour les législatives. Je vous jure qu'il y a un monde dans lequel c'est le moins pire des scénarios pour lui. Unis dans la désunion. Voilà, c'est ça. La gauche est unie dans sa diversité et dans ses guéguerres internes. Finalement, qu'est-ce qui unit tous les gens de gauche, si ce n'est la détestation qu'ils ont les uns pour les autres? Oh putain, je suis insupportable. Pardon. C'est quoi les européennes l'année prochaine, 2024? T'es dur, c'est pas de la détestation. Bah non, c'est pas de la détestation. C'est de la dialectique. C'est une forte inimitié. C'est du débat. C'est de la diversité. Macron, si t'es là, écoute Jean, il a deux, trois bonnes idées.
Ah non.
Moi, je suis un être de cynique et de calcul, hein. Je ne calcule que mon intérêt en tant que streamer qui couvre l'actualité politique, c'est qu'on a une actualité politique où il se passe des trucs. Pour ça, voilà. Moi, vous savez, tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Merci d'ailleurs, Dory Queen 2, pour ton Prime. Tu as parfaitement raison de prendre ton Prime, parce que j'espère que tu as bien compris que c'est pas le dernier stream de ma chaîne que tu vas regarder. Tu vois, les amis, on est parti pour encore 3, 4 ans, 5 ans, avec des streams tous les jours, on va analyser de l'actualité comme ça, avec des coups tordus, matin, midi et soir. Hein. Abonnez-vous, moi je dis abonnez-vous. Hein. Tu vas être fatigué après. Ça fait 8 ans que je fais ça, t'inquiète. Je suis solide. Merci Soujay pour ton Prime. Est-ce que tu peux dire ce qu'il se passera si le Sénat refuse d'adopter de son côté ? Il me semble que seul le gouvernement peut décider de donner le dernier mot à l'Assemblée nationale et le CC censurera la loi. Donc pourquoi la majorité se prend autant la tête ? Parce que je te rappelle, t'étais peut-être pas là quand je l'expliquais, que certes, cette proposition de loi d'abrogation de la réforme des retraites n'a aucune chance d'aller au bout, mais on s'en fout. C'est pas important. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale. Si les opposants à Emmanuel Macron réussissent à faire adopter une loi d'abrogation à l'Assemblée nationale, même si cette loi, ensuite, elle meurt de sa belle mort, on s'en fout, ils auront réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire la démonstration que le président de la République n'avait pas de mandat de l'Assemblée nationale pour réformer la réforme, pour réformer les retraites. Voilà. Donc on verra, soit convocation du bureau, déclaration de l'irrecevabilité de la proposition de loi, ce qui m'étonnerait parce que Yael Braun-Pivet a déjà convoqué le bureau qui a déjà déclaré recevable la proposition de loi. Soit Éric Coquerel décide que la proposition de loi est irrecevable alors qu'en réalité il a déjà dit qu'elle était recevable donc j'y crois pas. Soit les députés de la majorité se démerdent pour abroger l'article 1 de la proposition de loi lors de son examen en commission. Du coup, elle est réintégrée en séance publique. Et là, la présidente de l'Assemblée nationale déclare irrecevable l'amendement de réintroduction. Ce qui lui permet d'enjamber Éric Coquerel. Soit vote bloqué avec uniquement les amendements du gouvernement. À mon avis, on va finir comme ça, je pense. Soit obstruction de la part des députés de la majorité pour empêcher Liotte de faire adopter son texte. Mais ça, j'y crois pas parce que... La loi de Liotte, elle contient que 2 articles et réussir à obstruer sur un article entier pendant 24 heures, c'est quand même très dur. Rassure-moi, Jean, t'es libre le 8 juin matin parce que tu peux faire de sacrées audiences. Ah oui, je serai là. Hein. Ouais, je serai là. Pourquoi un vote bloqué serait négatif pour Liotte ? Un vote bloqué, ça permet au gouvernement de faire voter les députés en une fois sur une rédaction du texte, de tout ou partie du texte, en ne retenant que les amendements que le gouvernement retient. Donc les députés sont amenés à se prononcer sur une version du texte que le gouvernement souhaite. C'est une manière indirecte de proposer un vote sur la loi, mais j'essaie de réfléchir à dans quelle mesure est-ce que ça pourrait arranger le gouvernement de proposer une rédaction qui les arrange mieux. Macron ne peut pas faire supprimer le 8 juin et on passe du 7 au 9. Bien tenté. Non mais si tu... Je réfléchis. Si le gouvernement amende la proposition de loi d'abrogation pour du coup la transformer en proposition de loi de pas abrogation... ensuite ils font un vote bloqué sur la rédaction avec ainsi amendé, ça change rien parce que les députés doivent quand même voter. Donc en fait ça non mais en fait ça change rien parce que il doit quand même y avoir une majorité qui vote. Ah ouais, il faut que les amendements passent. Oui, en fait c'est ça, au final c'est... de toute façon il y a un vote, donc le gouvernement ça l'arrange pas qu'il y ait un vote. Ça repose sur quoi la niche parlementaire? Ça peut pas sauter. Non, ça peut pas sauter. C'est déjà prévu dans le calendrier depuis le début de l'année. Non, là on est en session ordinaire. Le Parlement siège de droit. Il a été convoqué par le président. Non, non, non. Il n'y a pas de mécanique où le président empêche le Parlement de siéger. Hein. On n'est pas au Royaume-Uni. Non, 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 non. Quel imbroglio pour le béotien que je suis. T'inquiète. Bon, est-ce que vous avez compris, au moins? Je suis désolé, hein, parce que là, vraiment, on est dans la technique. On est en train de vivre ces grandes heures de stream qu'on a déjà eu l'occasion de vivre. Sur l'article 40, l'article 47.1, la CMP, tout ça, tout ça. Que se passe-t-il si Macron dissout l'Assemblée avant le 8 juin? Je ne sais pas si la dissolution est effective avant la fin de la session. Je ne sais pas, tiens, c'est une bonne question. C'est quoi les pronos sur le fait que la commission des affaires sociales fasse sauter l'article 1? Bah, ils peuvent faire sauter l'article 1 à la commission des affaires sociales, puisque les macronistes sont majoritaires. Avec leurs alliés LR, ils sont majoritaires. Et surtout, si c'est pour faire sauter un article 1, ce sera plus facile. Tu peux faire un petit résumé? Elisabeth Borne a peur du vote du 8 juin sur l'abrogation de la réforme des retraites. Donc le gouvernement est en train de chercher toutes les techniques qui peuvent lui permettre d'éviter d'avoir un vote. Or, ces différentes techniques passent par un coup de Trafalgar au Parlement mené par Yael Braun-Pivet qui jusqu'à présent semble s'y opposer. Donc pour l'instant, on n'est que dans de la spéculation. Tout le monde réfléchit. Le gouvernement réfléchit à la meilleure moyen d'empêcher le vote. Les opposants réfléchissent au meilleur moyen d'aller jusqu'à un vote et de le gagner. Moi, je réfléchis à comment vous faire vous abonner avec Amazon Prime à ma chaîne. Chacun est dans son rôle. Personne n'a raison ou tort. Chacun est dans son rôle. Il n'y a pas de bon ou de mauvais point. Il y a des réflexions qui coûtent un prix politique important, qui du coup nécessitent de prendre des risques. Le gouvernement est-il prêt à aller jusque-là, etc., etc. Merci, Mflower. Est-ce que Macron peut abroger la loi d'abrogation? Non, mais enfin, c'est peu importe. La loi d'abrogation n'ira pas jusqu'à son terme, mais ça, on s'en fout. C'est pas important, encore une fois. Ce qui compte, c'est le vote. Est-ce qu'il y a eu un commentaire des syndicats sur ça? Genre, si le vote est esquivé, est-ce que ça va relancer la machine? Non, les syndicats, ils regardent ça à distance, mais ce sera un argument de plus contre la réforme des retraites si l'Assemblée nationale vote la loi d'abrogation. Ce sera la preuve que le gouvernement est passé en force. Enfin, passé en force. Le gouvernement a utilisé l'article 49 alinéa 3. Or, l'Assemblée nationale a fait la démonstration qu'elle était contre la réforme des retraites. En même temps, tu me diras, l'article 49.3, ça sert justement à ce que le gouvernement puisse passer de cette manière. Donc, j'ai envie de dire, ça ne changera pas grand-chose. L'application de l'article 40 ne tuerait-il pas ce qu'il reste du pouvoir du Parlement? Bah si, c'est tout le problème. C'est pour ça que Yael Braun-Pivet, et c'est pas la seule, elle hésite à utiliser l'article 40 contre les propositions de loi, en fait. C'est parce que le fait qu'on l'utilise pas, c'est pour de très bonnes raisons. C'est pour sauver le peu qui reste de parlementarisme. Déjà que le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir dans la Ve République, mais alors si les parlementaires eux-mêmes commencent à s'auto-saboter leurs propres propositions de loi, voilà. Ça donnera un argument de plus aux gaullistes qui diront bah, c'est bien la preuve que le parlementarisme c'est de la merde. Regardez, la gauche, ils sont incapables de faire une liste unique aux européennes. Le Parlement, ils sont incapables de se laisser déposer des lois les uns les autres. Jean Massier veut pas inviter l'extrême droite dans ses émissions. Voilà, il y a un moment, la démocratie, c'est de la merde. Il faut de l'autorité. Voyez? En parlant de ça, stop, faire monter l'extrême droite. Ouais, je sais, je suis chiant. L'article 40 n'a jamais été invoqué au Parlement. Si, l'article 40, il est tout le temps invoqué sur les amendements. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du travail habituel de l'Assemblée. Les députés sont habitués à l'article 40 sur les amendements. Là, la nouveauté, ce serait peut-être l'invocation de l'article 40 sur une proposition de loi. Ce qui est possible en théorie, mais ce qui n'a jamais été fait. Donc on est d'accord, c'est un peu le concept de démocratie qui est en jeu. C'est le concept de démocratie parlementaire. On est en train collectivement d'essuyer les plâtres d'une situation politique inhabituelle en France, qui est l'absence de majorité absolue pour un gouvernement. La Ve République n'a pas été conçue pour fonctionner en mode à l'allemande ou en mode compromis entre les groupes à l'Assemblée nationale. La Ve République a été pensée, théorisée et voulue pour avoir un gouvernement fort, issu d'une légitimité, d'une majorité forte. C'est ça la Ve République. C'est comme ça que ça a été pensé par le général de Gaulle, mis en musique par Debré, et pratiqué pendant toutes ces années. La légitimité du gouvernement à gouverner la France et ses moyens politiques lui sont donnés par une majorité solide. On a eu des majorités solides tout au long de la Ve République, à une exception, c'était 88, et une deuxième exception, c'est 2022. Donc on est en train d'essuyer les plâtres, on est en train d'apprendre à fonctionner de cette manière-là. Emmanuel Macron est en train de tester les limites de son propre réformisme avec ce peu de moyens politiques. Le Parlement est en train d'apprendre à travailler en mode parlementaire, même si l'opposition au gouvernement pour l'instant c'est le seul truc qui crée des coalitions. Oh c'est méchant ce que je dis, parce qu'il y a aussi eu quelques autres propositions de loi qui sont passées comme ça, mais... Les cohabitations qu'il a pu y avoir, c'était pas pareil. Mais si, paradoxalement, si, justement. Les cohabitations, c'était la preuve que ce que je dis est vrai. Les cohabitations, c'était justement la démonstration que c'est bien la majorité à l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, puisque c'est la majorité à l'Assemblée nationale qui décide de fait de l'identité du Premier ministre et donc de la politique du gouvernement. Comment est choisie la composition de la commission des affaires sociales? Pourquoi les macronistes y sont suffisamment majoritaires pour faire passer leurs amendements de suppression? Les commissions à l'Assemblée nationale sont composées au prorata des représentations des groupes dans l'ensemble de l'Assemblée nationale. Une commission, c'est une mini-assemblée. Donc les macronistes sont majoritaires en commission parce qu'ils sont majoritaires à l'Assemblée. Majorité relative, certes, mais majoritaire quand même. Pour le dire autrement, c'est les électeurs qui choisissent. Et comme les électeurs ont beaucoup d'humour, ils ont choisi de pas donner la majorité absolue aux macronistes. Ni à personne d'autre d'ailleurs. Donc De Gaulle n'a pas prévu de scénario où les gens décident de ne pas donner la majorité au président, c'est pas très malin. C'est-à-dire, bah si. De Gaulle a tout fait pour que les gens choisissent des majorités quelles qu'elles soient, mais qu'au moins elles soient fortes. Et non, effectivement, personne n'avait pensé au scénario d'une cohabitation. En 1958, personne n'imaginait que les Français puissent voter pour un président de la République, puis voter pour un autre camp. Aux élections législatives. Et, non mais attends, les Français, ils vont pas changer d'avis en 2 ans quand même. C'était mal connaître les Français. Non, ils ont le sens de l'humour, les Français. Hein. Ils peuvent voter pour Mitterrand en 81 et pour Chirac en 86. Ils peuvent voter... Ils peuvent voter pour Chirac en 95 et pour Jospin en 97. Ils peuvent voter non au référendum en 2005, puis Nicolas Sarkozy 2 ans plus tard à la présidentielle. La France. Gaulois réfractaire et taquin. Ah ouais, Gaulois taquin. Quel joyeux de riz, ces Français. Ce sont des petits plaisantins. Ah là. Pas mal, non? C'est français. Ce serait mieux si les députés étaient élus en même temps que le PR. Oh, le même jour, oui, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas central, mais oui, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui croit en la politique aujourd'hui. Ça tombe bien, la politique, c'est pas une divinité, t'as pas besoin de croire en elle, hein, elle existe. Il va bien le petit chat? Ouais.
Qu'est-ce que t'en penses, le petit chat? T'es pour le septennat, toi?
Il n'y en a rien à branler, je crois. Pourquoi il n'y a pas la proportionnelle, je comprends toujours pas. Parce que Macron n'a pas de majorité pour réformer la Constitution et pour faire voter une loi organique. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord là-dessus. Donc voilà. C'est qui l'invité de Backseat demain? Tu verras, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de très bien. On a Philippe Collin en première partie. Check tes DM. Sur Twitter? Profites-en pour leur dire qu'il reste une quinzaine de places. Ah d'accord, on me dit dans l'oreillette. On me dit dans l'oreillette qu'il y a une quinzaine de places encore disponibles pour venir demain boire des bières à Backseat. Donc, rendez-vous sur WizEvent, tu fais point d'exclamation place dans le chat. Voilà, vous cliquez sur le lien WizEvent et vous venez demain dans le public de Backseat. Rendez-vous à 18h30 dans le quartier Gambetta à Paris. Vous assistez à l'émission en public et après on vous offre à manger et à boire. Est-ce que c'est pas la meilleure soirée théâtre que vous puissiez imaginer? J'ai également le plaisir de vous annoncer que nous aurons un invité en première partie de l'émission Backseat pour parler de tout ce dont je viens de vous parler. Il s'agira de Charles de Courson, pardon. Charles de Courson qui sera avec nous sur le plateau de Backseat, en visio en l'occurrence, et à qui j'ai beaucoup de questions à poser. C'est cool ça ou pas? Sa visio fonctionne? Ouais, non, c'est bon, ça a été vu, revu, on va faire des tests et tout, vous inquiétez pas. La dernière fois c'était à l'arrache. Là c'est vu et prévu. Donc Charles de Courson sera bien dans l'émission Backseat pour évoquer cette proposition de loi dont il est le rapporteur sur l'abrogation de la réforme des retraites, l'article 40 que menace d'utiliser le gouvernement via des moyens détournés, la constitutionnalité de cette loi, la stratégie, la tactique, tout ça, tout ça, tout ça. Et je serai entouré d'Antoine, Latifa et de Claire pour cette émission Backseat de demain. Blablabla. C'est qui le mec au premier plan à gauche? Y a pas son nom. C'est Hugo Décrypte, je crois. Je sais pas. Tu pourrais présenter vite fait Latifa. Latifa est journaliste. Elle a travaillé au Bondi Blog. Le Bondi Blog, voilà, pour lequel elle a travaillé et où elle travaille toujours d'ailleurs, je sais plus. Et elle est aussi membre d'une organisation qui s'appelle Le Mouvement, qui est une organisation écologiste, une assoce. Elle est déjà venue, Latifa, ouais. J'adore le fait qu'on ait des gens excités par le fait que Charles de Courson soit invité dans une émission. J'adore le moment politique que l'on vit si on oublie les violences policières et le déni de démocratie, bien sûr. Ça fait plaisir que commenter. Non, je suis d'accord avec toi, je suis très content de vous permettre de participer, enfin de comprendre et de vivre cet événement politique, ces événements politiques, en vous les expliquant, en lisant des articles, en suivant en direct l'Assemblée nationale, en invitant les acteurs du paysage politique sur Twitch. Merci beaucoup, je suis très content. J'en profite pour vous inviter à suivre la chaîne, à vous abonner et à faire des dons pour participer au financement de l'émission Backseat. C'est grâce à vos dons qu'on peut recevoir Charles de Courson dans de bonnes conditions pour lui poser des questions avec des chroniqueurs cool, avec un public de qualité, avec des caméras, des lumières, tout ça. C'est grâce à vous. Merci du fond du cœur pour votre participation au financement de Backseat. Abonnez-vous. Faudrait faire comment pour passer au vote du jugement majoritaire, c'est souhaitable selon toi? Oh là, ce sera une discussion pour une autre fois. Tu demanderas à... Chloé Ridel. Hop. On va faire un raid chez David Dufresne. David Dufresne, qui est en ce moment en train de caster l'Assemblée nationale, il est en train de commenter l'audition du Rassemblement national par la commission d'enquête sur l'influence de la Russie. Donc on fait un raid chez Dave Duf. Vous pouvez suivre donc cette audition et le travail de l'Assemblée nationale sur l'influence de la Russie et le financement par la Russie de Marine Le Pen pendant tant d'années. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour Backseat à 19h et à ce soir pour ceux qui viennent, on a eu du financement de Backseat, je vous dirai demain, et à ce soir pour ceux qui viennent au meeting putain je suis fatigué, Aymeric Caron, voilà, dans le 18e arrondissement de Paris. Des bisous, ciao, bye, salut, bonne soirée.
Sur cette alliance.